Si la poésie ne vous aide pas à vivre, faites autre chose.
Si la poesía no te ayuda a vivir, hace otra cosa.
Si la poesía no vi ayuda a vivir, allora fate un'altra cosa.
If poetry doesn't help you to live, then do something else.
L'émission de la BIP, Brigade d'intervention poétique, jusqu'à 22h sur Radio Clapas.
Si la poésie vous aide pas à vivre, faites autre chose.
Une émission présentée par Yves Flanck et Michel Arbat s'est consacrée à la vie des poètes. Avec au gré des émissions les voix de Claude Maurice, Charo Beltran, Florence Mourieras, Cécile Combredet, Marc Pastor, Patrick Vendrin, Didier Mailleux, Marc Na, Julien Guil, Yves Flanck et Philippe Goudard. Bonsoir, et c'est notre première émission en direct pour cette nouvelle saison. Alors, tout d'abord, je voudrais corriger une petite erreur. Comme l'indicatif est resté de marbre, comme le sont les vers des poètes, et on vous indique que nous allons jusqu'à 22h, mais non, le nouvel horaire, c'est de 20h à 21h avec les poètes en compagnie de la BIP ce soir. On va parler d'un poète, mais on vous en fera la surprise. Je vais commencer par lire un texte qui parle de lui, et qui est du grand Philippe Soupeau. Je reçois la visite d'un très jeune homme. Pourtant, il a, me dit-il lui-même, 22 ans, et il ajoute, je suis un débutant. Il aime la poésie avec passion, s'exclame-t-il, et il reprend en me regardant bien en face, c'est pour cela que je suis venu vous voir. Nous parlons de Rimbaud, de Lautréamont, et je l'interroge. Il me raconte sa vie avec une très remarquable modestie. Interné dans un camp de concentration, il s'évade et gagne le maquis. Il est emmené en Angleterre pour suivre un entraînement spécial, tout à fait spécial, de soldats parachutistes. Il est parachuté en Hollande, regagne l'Angleterre et part en permission pour le Midi de la France. On l'arrête parce qu'on le prend pour un parachutiste allemand. On ne le relâche que 3 semaines plus tard sans un mot d'excuse. Il veut retourner en Angleterre et passe par une ville de France où on arrête de nouveau comme parachutiste allemand. Mais cette fois pour 3 jours. On l'envoie ensuite de garnison en garnison pour lui faire oublier son entraînement spécial. Puis il est démobilisé et on le jette sur le pavé avec 1200 francs en poche. Il arrive à Paris et peut difficilement trouver une chambre dans un hôtel borgne. Il cherche une place dans un journal pour manger, dit-il. Aucune amertume, du moins en apparence. Quand il se souvient, il ferme quelquefois les paupières trop doucement. Mais il sourit, il s'anime, il gesticule dès que nous reparlons de poésie. Ses jugements sont justes, parfois sévères lorsque des poètes l'ont déçu, mais il est tout joyeux quand il peut louer sans réverbe. « Ah, Henri Michaud, dit-il. Michaud, lui, il est bien. Ah oui, il est bien. » Il ne se fait pas beaucoup d'illusions, il sait que la vie va être dure, mais il en a tant vu qu'après tout, cette nouvelle lutte ne l'effraie pas. Il se moque gentiment de lui-même, comme Rastignac, comment-il, avec un sourire. Il me demande à mon tour mes impressions de prison. Et il approuve certaines de mes réactions. Quand je parle de la camaraderie, je vois son visage tout à coup s'éclairer. Ses camarades, comme il en parle avec amour, avec passion, il compte sur eux, il est sûr d'eux. Après son départ, je reprends la lecture des revues et je m'étonne de ne pas retrouver cet enthousiasme que j'ai vu briller dans les yeux de mon visiteur. Vers 10h, on frappe à nouveau à ma porte. C'est le jeune poète qui vient me faire lire un conte. Très gêné, mais décidé, il me lit son texte très étrange, inquiétant, contenant de très beaux passages. Influence nette, mais pas directe du surréalisme. Cette lecture a dissipé la timidité de mon visiteur. Il est toujours aussi modeste, mais se laisse aller. Il me raconte alors sa vie depuis 1942. Une série d'aventures incroyables, douloureuses. Prison, maquis, condamnation à mort. Brutalité, évasion. De nouveau le maquis, puis la prise de Tulle. Les 99 pendus. La prise de Limoges et la libération, les réquisitions, Paris, l'inquiétude, le manque d'argent, les souleries. Avec une douceur enfantine et un sourire gêné, il me décrit les plus extravagantes journées, les nuits les plus folles qu'ait pu vivre un homme. Ce garçon de 22 ans est resté d'une pureté que les jeunes ronds de cuir ou les petits ambitieux sont incapables de connaître. Je lui demande s'il écrira ses souvenirs. Presque indigné, brusquement, il me répond « Non, sûrement non, je vais écrire des poèmes ou des contes. » Dans ses prisons et dans les maquis, il a beaucoup lu, il semble s'excuser de n'avoir pas eu le temps de tout lire. D'après ses récits, je comprends que c'est un homme qui aime se battre. Quand il raconte une bagarre, il se met aussitôt en garde comme un boxeur et je remarque que son visage change, que son regard durcit. Il reprend bien vite ses questions sur la poésie, puis il s'en va en me remerciant d'avoir écouté la lecture de son conte. Et en le voyant partir, si heureux d'avoir parlé de poésie, je pense que c'est moi qui devrais le remercier. Je me promets de ne plus le quitter de vue. Je crois qu'après ce qu'il a vécu, rien, même pas le succès, ne pourra le gâter ou l'éloigner de la poésie. Parmi toutes les angoisses, les tristesses, les déceptions qu'il a connues, ce qui paraît l'avoir le plus affecté, c'est que les trois camarades, qui furent fusillés après son évasion, condamnés à mort en même temps que lui, se désolidarisent, qu'ils le traitent d'Aristo, sikh, parce qu'il écrivait, qu'il lisait et qu'il citait des vers. Peut-être ce garçon a-t-il connu ce qu'a vécu Rimbaud, mais il ignore encore les milieux littéraires qui dégoûtèrent tant Rimbaud. Ce qui est étrange, c'est qu'il ait envie de les connaître. S'il est déçu, ce qui est probable, je sens déjà que l'attitude de certains poètes l'inquiète. Comment réagira-t-il? Prendra-t-il de nouveau le large? Il me racontait qu'il avait vu un mauvais film, François Villon, je crois, mais qu'à un moment donné, quelques phrases l'avaient fait tressaillir. Il citait de mémoire, et à mon tour, je cite de mémoire, « Mon âme est comme un chien, vous ne pouvez pas l'enfermer, elle veut sortir. »
Michel, je crois que j'ai deviné. Aujourd'hui, on va parler d'Armand Gatti.
Voilà, on va parler d'Armand Gatti.
Armand Gatti, c'est le fils d'Auguste G, finalement, d'Auguste Régnier, qui était balayeur, et d'une mère femme de ménage.
Voilà, Gatti est né en 1924 de ce couple d'émigrants italiens, dont le père est un anarchiste, hein, dont tu viens de parler. Augusto, qui sera d'ailleurs l'objet d'une pièce de Gatti qui s'appelle La vie imaginaire de l'éboueur Auguste G.
Mais Armand Gatti n'aurait jamais dû naître parce que normalement, Auguste devait être assassiné par les tueurs de l'agence Pinkerton.
Absolument. Ben vas-y, alors raconte tout
ça. Mais non, je suis très étonné d'ailleurs de voir que Auguste G était en train de se promener au bord des grands lacs à Chicago parce que c'était un anarchiste militant et donc il prenait part à toute la mouvance des années 20 aux États-Unis qui était une mouvance très
revendicatrice, syndicale, et puis bon, on peut
et
dire.
Très policière aussi, dans l'autre
policière,
sens.
C'est-à-dire, c'est une période de très grande répression du mouvement syndical. Et un des grands chocs du père, donc d'Augusto, c'est l'histoire de la condamnation de Sacco e Vanzetti, qui étaient deux syndicalistes italiens, Bartolomeo Vanzetti et Nicola Sacco, qui sont emprisonnés, je crois, c'est en 1920, pour une histoire de hold-up dont on les accuse injustement, qui vont passer 7 ans en prison. Et qui vont être finalement exécutés sur la chaise électrique en 1927, malgré un mouvement de protestation mondiale. D'ailleurs, quand on avait fait l'émission sur Robert Desnos, on avait signalé cette petite anecdote qui disait que Robert Desnos avait fait signer à Lindbergh, avait tenté de faire signer à Lindbergh une pétition pour la libération de Sacco e Vanzetti. Voilà. Donc, pour aller vite, il s'appelle Dante. Hein, Armand Gatti, c'est Dante Sauveur Gatti. Il naît donc en 1924 de ce couple d'émigrés italiens, parce que le père a dû fuir le fascisme à cette époque-là déjà. Et effectivement, il a échappé à la mort en Amérique. Et le jeune Dante va être un élève passionné déjà par la poésie. Il écrit sur son pupitre « Je veux être Victor Hugo ou rien ». Hein. Mais il est chez les frères et il n'est pas un très bon élève. C'est un
mais
élève
alors ça,
plutôt
justement,
dissipé.
Ça m'a surpris, parce qu'avec un père comme Auguste, anarchiste, Gatti fait le petit séminaire. Enfin, il fait le séminaire, quoi. Donc c'est sa maman, je crois.
Je pense que c'est sa maman, comme souvent dans ces couples, voilà, italiens, les mères sont, enfin, c'est une belle complémentarité, on va dire. Hein, donc on va s'arrêter parce que là on prend déjà beaucoup de temps sur la biographie. On va dire simplement la fin tragique dans cette enfance. Il y a quand même un élément qu'il faut dire, c'est que il y a chez Dante déjà une espèce de d'attirance pour le monde d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, on le repêche un mois de février dans le port de Monaco parce qu'il a tenté de marcher sur les eaux, hein, comme l'a fait un célèbre anarchiste avant lui, dont il dit d'ailleurs que c'est le seul anarchiste qui a réussi, Jésus-Christ.
Mais il a marché sur l'eau pour une femme.
Pour une femme, ce qui est une bonne raison. Et enfin, il y a cet événement terrible qui est la mort du père. Le père d'Armand Gatti meurt d'un coup de matraque dans une manifestation. Il fait partie du service de la voirie, je crois, à Monaco, et il s'affronte très durement à Marseille dans une manifestation avec la police, où il meurt d'un coup de matraque. Voilà. On va prendre une petite pause avec les fleurs, hein, puisqu'on sait que Dante est un grand amoureux des fleurs et des arbres. Sting chante « The lowest trees have tops ».
Slender hairs cast shadows low but small, and bees have stings, although they be not great. Seas have their sauce, and so have shallow springs, and love is love in beggars and in kings. Seas have their source, and so have shallow springs, and love is love in beggars and in kings. Where waters smoothest run, deep are the fords, the dial stirs, yet none perceive. The firmest faith is in the fewest words. The turtles cannot sing, and yet they love. True hearts have eyes, and ears no tongues to speak. They hear and see and sigh, and then they break. True hearts have eyes, and ears no tongues to speak. They hear and see and sigh, and then they break.
Mais, non plus flux ou couler d'une émotion, mais risque nécessaire à la poésie. Mains qui ont planté sur les terres dévastées d'Irlande des mots qui autrefois étaient des arbres. Mains d'artificiers récompensés par Henri Michaux, mais après l'éblouissement, que reste-t-il? Un dessin brûlé sur la rétine. Mains au bout de la pelle triangulaire, s'enfonçant dans la partie mortelle du monde concave. Mains bâtisseuses de logopoles et remontant les horloges à l'infini sur le trajet des pages. Mains évidence d'un centre absent, mais toujours dite en texte multicolore. Mains qui ont porté en terre la dépouille froide des amis, non pour les ensevelir, mais pour qu'ils germent beaux, terribles, incommensurables. Mains des îles grecques, retenues dans les 5 heures du soir, et grimpant, fleurs insolites, vers les étoiles la nuit venue, mains inextricablement en guerre, et tirant toujours en l'air, parce que la mort de l'autre leur a toujours été incompréhensible. Mains d'André Breton, venues des monarchies et hiéroglyphiques, se lisant dans l'enfoncement, le relief, la ciselure, l'écume rejaillissant d'un océan toujours en mouvement. Mains de la continuelle offrande, en mal de tout, les mouvements de la mer, la course du chien abandonné, la solitude du loup et le rossignol la nuit, chaque fois rapatriée en elle. Main de la nuit de l'art, qui continue l'émergence de l'effondrement universel. Elles font du manque de support, de la dislocation, du corps remonté à la surface après la noyade, leur raison de dire. Mains cherchant à tâtons à travers le monde les battements de cœur de la poitrine de Sylvia, l'amour qui avait des ailes de rossignol. La main dans la main de Jean Billard, un moment de la Méditerranée dont il était sur ses rivages tous les arbres, lors d'une partie fictive de bras cassés uniquement pour les photographes. Mains inventant la fraternité avec des mains de peintres futuristes, cubistes, intersectionnistes, qui ne cessent de frémir, d'absorber, de rayonner la beauté des spectres, des transfigurations, des succès d'années. Mains de la croyance zen, déchirant comme un moine les textes sacrés, mais les recopiant la nuit avec des encres cassées du savoir qui délivre. Mains errantes des aventures calligraphiques et Mao Tse-Tung les commentant. Pour la calligraphie, il faut qu'une troisième main jaillisse d'elle comme le bond d'un tigre.
Le Christ mesure 30 mètres en lampe de couleur sur le Michigan. Il agonise toutes les nuits 10 minutes, puis s'éteint pendant les 10 minutes qui suivent. Le remplace alors une inscription publicitaire, folle de couleurs électriques qui pleure. « Nous l'aurions encore s'il avait connu la Barney Funeraria Embalmment, tout, South Street. » Après quoi, le Christ recommence à agoniser. Pour que chacun se sente concerné, le maire Big Bill Thompson a donné les couleurs de cette agonie à chacune des lignes d'autobus qui dessinent la ville. La ligne pourpre, le sang qui coule à Evanston. La ligne rouge, le cœur ouvert par la lance à Howard. La ligne marron, le bois de la croix à Ravenswood. Deux lignes bleues pour marquer la respiration qui monte et qui descend, à Douglas et à Congre. Une ligne orange pour le pagne cache-sexe à Midway. Une ligne verte pour une bulle qui dit en vert « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» à Lake Street. Se déplacer dans Chicago, c'est faire partie du corps mystique du Christ. Voter pour Big Bill Thompson, c'est faire de Chicago la terre d'élection du Christ. À peine arrivé, tu diras que tu n'es venu que pour une chose, dialoguer avec lui. Peu importe le policier à qui tu t'adresses, Big Bill en sera averti sur le champ. Peut-être t'intégrera-t-il sur le champ à sa campagne électorale. En tout cas, il ne pourra que faciliter ton entrée aux abattoirs. D'une façon ou d'une autre, tu t'y retrouveras. Sache que tous les théâtres affichent en ce moment avec leur lumière reflétée dans le Michigan, autour des néons de l'agonie, le Christ à Chicago. Dialoguer avec le Christ, le seul anarchiste qui ait réussi, n'est-ce pas, pour un enfant des collines, la même aventure que Bernardone sur les briques parlant aux oiseaux ?
Le Christ à Chicago est un texte d'Armand Gatti, et c'est à Armand Gatti que nous rendons honneur ce soir. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'Armand Gatti, d'abord, on l'aime, c'est quelqu'un qui nous a marqué, et tous ceux qui sont autour de cette table ont collaboré ou collaborent encore aujourd'hui avec lui, et aussi il nous fait l'honneur de venir dans notre ville pour une rétrospective de ses films qui aura lieu à partir de demain au cinéma Rabelais. Demain à 17h, donc, Armand Gatti fera une lecture, je crois que c'est à la salle des rencontres, une lecture du texte d'un film opéra qu'il a écrit en 78, qui s'appelle La première lettre, et qui est un hommage rendu à Roger Rouxel, jeune résistant du groupe Manouchian. Voilà, donc on continue à parcourir la vie absolument incroyable et qui ressemble à une comète d'Armand Gatti, puisque à la mort de son père, donc son père mort en 42, je crois, c'est déjà la guerre, hein, il me semble, j'espère ne pas dire de bêtises, hein, et, non, hein, peut-être y dire, Fredo, vous me dites si je dis une bêtise. Bon, peut-être on dira une bêtise, c'est pas grave, il nous pardonnera. En tout cas, très vite, Armand Gatti sent la nécessité de s'engager dans la résistance.
Finalement, résister, ça va être le mot le plus important dans sa vie.
Oui, peut-être. C'est peut-être la ligne de conduite de toute sa vie. Hein, et il va rejoindre un maquis près de Tulle, dans la forêt de Berbérolles. Voilà. Et donc, on fera entendre un peu plus tard quelques petits bouts d'interview qu'il nous a donné. C'est un moment où ils sont quatre collégiens avec un seul revolver pour les quatre, quoi. Alors évidemment, comme il le dit à l'époque, ils ne savent pas choisir le moment juste. Hein. Et c'est très très important cette idée de dire le mot juste au moment juste. C'était une sorte d'obsession qui va traverser toute sa vie, hein, puisqu'ils se font arrêter évidemment par la milice parce que bon, ils attaquent un convoi qui est c'est David contre Goliath, quoi, et avec un seul revolver, et ils se retrouvent donc arrêtés en plein hiver dans cette forêt de Berbérolles, et il se passe quelque chose d'extraordinaire au moment de son arrestation. Un rouge-gorge chante sur un arbre au moment où un milicien lui dit: qu'est-ce que vous foutez là? Et Armand Gatti répond: et lui, qu'est-ce qu'il fait là?
Voilà. C'est le début de son aventure avec les arbres.
C'est le début, c'est quelque chose de très important, ce dialogue qu'il a avec les arbres. Et aussi, une chose très importante, c'est qu'il commence à résister. Mais ça, peut-être on va le lire. Hein. Il résiste avec la poésie. C'est sa première façon de résister. Donc on va lire un petit extrait de La vie au maquis par Armand Gatti.
Oui, donc le maquis. Mon maquis, un des tout premiers de la résistance FTP, était un trou, 3 mètres sous terre dans la forêt de la Berbérolles, près de Tarnac, en Corrèze. C'est là que j'ai convoqué à peu près tous les personnages qui allaient hanter mes futures pièces, Macno, Gramsci, Saint-François d'Assise et beaucoup d'autres. Ils ont fait par la suite le tour de tous les maquis de la Terre, du moins à travers mon œuvre dramatique, ceux que j'ai connus ou avec lesquels j'ai partagé quelque temps l'expérience, comme ce fut le cas au Guatemala. Deux éléments ont eu une influence capitale sur ce que j'allais écrire par la suite. Tout d'abord, ça a été une embuscade que nous avons tendue. C'était la toute première embuscade sur la route de Mémac. Dans cette embuscade, on devait s'attaquer à tout un convoi, et nous n'avions en tout et pour tout, pour les quatre personnes qui faisaient partie de ce maquis, qu'un revolver à barillet 6.35, et il s'est passé ce qui devait arriver. Lorsque le convoi est passé devant nous, nous avons laissé passer, suivant les indications que nous nous étions données, les motocyclistes avant-coureurs de tête. Et lorsque les camions se sont engagés juste devant nous, à ce moment-là, nous avons tiré. Malheureusement, personne n'a entendu la première balle. Personne n'a entendu la deuxième, et il a fallu la troisième pour amener quelques réactions chez l'ennemi. Ce jour-là, j'ai compris que la résistance, ce n'était pas du tout dans le fait de tirer, de mettre des bombes, d'amener la mort en face. La résistance consistait à être présent, là où il fallait, parce que c'était le moment juste. Par la suite, lorsqu'il y a eu l'arrestation, cette idée de moment juste, de parole juste au moment juste, ça a été dans la prison d'Ussel, où les quatre qui avaient été arrêtés, les deux frères Claravel, Marcel Poyton, qui était cheminot, et moi, se sont retrouvés. Après une journée très dure, puisqu'elle avait été marquée par plusieurs passages à tabac, attaché deux par deux par les menottes dans des cellules qui n'étaient pas des cellules, mais des lieux prévus pour les ivrognes, c'est-à-dire des espèces de petites cages avec une structure en fer au milieu, de façon à ce que l'ivrogne qu'on couchait sur cette structure puisse vomir sans porter préjudice, puisque ça coulait en bas. Le lendemain, on lançait un peu d'eau, et toutes les traces laissées par l'ivrogne disparaissaient. Nous avons donc été jetés dans des cellules qui n'étaient prévues que pour une personne au maximum. Nous étions avec les menottes l'un sur l'autre. C'était l'époque du grand hiver de l'occupation, 1943. Nous étions donc attachés et mis l'un sur l'autre. On ne pouvait pas faire autrement, et on a commencé à uriner les uns sur les autres. C'était quelque chose, un moment assez dur, parce que l'on sentait que les nerfs allaient craquer. Étant donné la situation, le moindre mouvement portait préjudice à l'autre. La menotte serrait terriblement le poignet qui ne cessait de gonfler. Cette urine qui se gelait par-dessus, mais qui avait le temps de couler et d'atteindre la peau. Nous étions sur le point d'en découdre et de cogner aveuglément, comme dans des scènes que j'ai retrouvées par la suite dans le train de la déportation. Quand un des frères Claravel a prononcé le mot juste, il a demandé, d'abord à moi, « Est-ce que tu regrettes quelque chose, Don Quichotte ?» C'était mon nom de guerre. J'ai répondu après réflexion, « Non, je ne regrette rien. » Et dans la boîte à côté où étaient l'autre frère Claravel et Poyton, deux voix après réflexion ont répondu « Non, si c'était à refaire, on recommencerait exactement de la même façon. » Pour moi, à ce moment-là, j'ai vécu le moment juste.
La dernière nuit. Jardin des oliviers, chaque nuit recommencé. La prison de Fresnes. Le meurtre avait lieu hors les murs, mais pas l'agonie et ses sentences. Sa mort, il parlait avec elle depuis 125 jours. Arrestation, baignoire, poignée sciée par les menottes, tesson de verre dans les genoux, froid glacial des cellules qui paralysent mots et attitudes étaient autant de jalons. Sous le regard fermé des gardiens, celui grandiloquent des miradors, à travers les géographies illimitées, des murs de haute surveillance, il portait les derniers instants d'une vie à peine commencée, comme le sang séché de la torture sur la chemise et le tricot. Sa seule idée, tenir jusqu'au jour limite de ses 18 ans. « Bon anniversaire, mon grand !» aurait écrit le père. « Nous t'embrassons, mon Roger !» aurait ajouté la mère. De l'être, il n'y eut que la sienne pour dire adieu. Et souvenez-vous, il fut exécuté la veille. Devant la mitrailleuse, ils sont devenus roses de vent et cris de l'enfance. Seule l'enfance peut déchiffrer les derniers moments du partisan et sait répondre au lieu où il s'abat. Début de mots, restons de gestes. En chacun, une solitude qui ne sait pas en quelle langue mourir.
vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans, vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes, menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Y cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. » Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini plus tard en arrivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée, ô mon amour. Mon orpheline, et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir. 23 qui criaient la France en s'abattant.
Aragon Ferré, l'affiche rouge. Le poète à l'honneur ce soir, c'est Armand Gatti. Si on insiste tant sur ses débuts dans la résistance, eh bien c'est que c'est une sorte de concentré de sa vie. Mais le jeune Dante a déjà lu beaucoup de poètes. Il a lu Hugo, mais il a lu aussi. Il est passionné par les surréalistes déjà. Il a lu énormément. Il est en contact avec cet autre monde et il va suivre un chemin terrible puisqu'il est condamné à mort. Et gracié à la dernière minute, hein, ce dont il dira d'ailleurs que c'est une des choses qu'il était presque plus difficile de revenir que d'accepter de mourir, quoi. Et ensuite, il est déporté au large de Hambourg, dans un lieu qui est ce qu'il va appeler plus tard assez cycliquement le monde concave, qui est cette espèce de camp de concentration donc au large dans la mer, rêvé par Himmler un des potentats du régime nazi, qui était obsédé par l'idée que le monde était concave. Donc Himmler lisait beaucoup de textes occultes et était persuadé qu'il cherchait une preuve que le monde ne l'était pas, en tout cas. Donc il faisait creuser sous une cloche de béton à 300 mètres au large de Hambourg par des centaines de déportés qui descendaient chaque jour par un puits auxquels on les amenait en barque, en bateau, quoi, à 300 mètres au large, descendaient dans ce puits et creusaient l'écorce terrestre pour les lubies d'un des potentats du système, quoi. Donc, et Gatti raconte cette vision d'enfer, hein, d'enfer dantesque, on pourrait dire, ouais, hein, dans lequel il voit, avec la pression atmosphérique multipliée, les gens saignent des yeux, des oreilles, quoi, et on sait, il dit, on sait la semaine où quelqu'un va mourir. Donc lui, il décide de ne pas mourir, il décide de vivre et il va s'échapper, ce qui est une décision très difficile parce qu'on sait que derrière il y a des représailles, mais il s'échappe et il va rejoindre l'armée gaulliste à Londres. Donc, et comme le dit Soupeau, il va faire une formation de parachutisme.
Mais alors, juste avant de rejoindre l'armée gaulliste, il a quand même quelque chose qui sera très important dans sa vie de poète ensuite, c'est que dans cet univers carcéral et concentrationnaire plutôt, il observe l'action de trois rabbins qui vont vers les détenus en essayant de les maintenir quand même à flot malgré tout ce qui leur arrive. Et ces trois rabbins leur racontent des histoires et presque commencent à leur raconter l'histoire de... Et en leur racontant des histoires, ils font du théâtre, en quelque sorte. Et Gatti dit que c'est lors de cette expérience concentrationnaire, poétique, qu'il a compris que le théâtre serait très important dans sa vie.
Autour de trois mots, j'étais, je suis, je serai.
Merci Dir. On va lire peut-être un autre extrait de cette période.
Chant de la souffrance à la troisième personne féminine. Elle a des voisines qui disent en allemand de se dépêcher, qu'elle va attirer la poisse. Elle répond, mes parents faisaient l'amour en allemand. Elle n'en veut pas pour mourir. Elle s'accroche à son espagnol. Elle s'accroche aussi à la barre de son chalet. L'affrontement avec les Polonais est inévitable. Ils sont remplis chaque jour de patates au sein doux que facilite le brassard de capot. Tout est joué d'avance. Les mots polonais vont frapper et les mots espagnols s'accrocher au chalet des deux mains. Les mots allemands pépient, puis crient. Ce sont les petites amies du capot. La plus jeune, 13 ans, de quels mots sont-ils faits? La plus jeune donne au capot un pilon. Le capot frappe sur les mains de celle qui doit partir. Les langues trouvent un terrain d'entente, hurlement. Le pilon frappe, les mots espagnols s'embrouillent. Ils lâchent, mais pas la bouillie sanglante qui, au bout des bras de la jeune femme, s'accroche encore à la barre du chalet. Le temps d'une malédiction bulgare. Tout se défait. Deux moignons qu'elle tend, deux moignons comme deux grands saluts fous au-dessus de la tête des autres pendant le transport à la chambre à gaz.
Parole du Baal Shem Tov. L'homme est une lettre ou une partie de la lettre. Quand il n'en manque aucune, le livre dans sa totalité est écrit. L'homme, par la place qu'il occupe dans l'univers, a obligation de se renouveler, écriture. L'homme est un commentaire. Les lettres sont le commentaire de l'homme. Elles se circonscrivent avec lui à l'intérieur des mots et des lexiques et n'ont qu'un seul futur en perpétuelle demande, le nom. Elle ne juge jamais sans comprendre le pourquoi qui devient à son tour la question. Préservant l'ouverture, car partout, il y en a une.
No, my darling, I can't stand to sleep alone. No, sweetheart, in the dark to call my. Sing it, I can.
A commencé avec les quatre de la forêt de la Berbérolle à la libération, lorsque je suis revenu, que j'étais parachutiste parce que j'ai évolué moi dans moi. Et donc je suis revenu, qu'est-ce que j'ai vu à l'endroit où il y en a 50 000, tout le monde était résistant. Parce que dire qu'on fait la révolution, c'est prendre le pouvoir. Sinon, si tu ne prends pas le pouvoir, tu ne la fais pas. Et donc, tu es obligé de prendre le pouvoir. Une fois que tu as pris le pouvoir, il faut le défendre. Et alors, qu'est-ce que tu veux ? Tu tires. Et pour prendre, et pour défendre, et pour tout, tu tires. Bon, le résultat, il n'y a jamais de révolution. Et que lui, d'ailleurs, là-bas, c'est ce qu'il fait au Chiapas, la poésie. Avec ses Indiens, bon, ils récitent, ils inventent, ils font des fêtes ou la poésie, etc. C'est ça la façon, eux, de mener le combat.
La prise de conscience plutôt que la prise de pouvoir.
Exactement.
Donc c'était la voix d'Armand Gatti, vous l'avez reconnu, qui nous a fait le plaisir de nous dire quelques mots, de parler de son expérience de résistant. Donc on est arrivé à la fin de la guerre. Hein, auparavant, Yves, tu me disais que
qu'il s'est évadé guerre, voilà. et donc il a fait à pied le chemin qu'avait fait Hölderlin avant lui.
Voilà, le chemin d'Hölderlin qui était parti donc d'Allemagne pour aller travailler à Bordeaux, hein, pour après à la suite d'une déception, mais enfin d'une sorte de rupture avec la femme de son cœur qui était dont il était précepteur des enfants. Voilà. Et d'ailleurs, Hölderlin a fait le chemin de retour quand il a pris la mort de cette femme en demandant son congé auprès de je crois que c'était l'ambassadeur d'Allemagne qui lui a donné son congé. Bref, donc Dante Armangatti se retrouve dans l'armée gaulliste, il va être parachuté, on l'a déjà dit, Soupeau en a parlé à plusieurs occasions, arrêté, et puis il va même suivre les armées alliées, il va participer à la bataille d'Arnhem où il est décoré, hein. Donc il faut dire quand même, c'est important, qu'avec René Char, je crois que Armangatti est le seul poète français qui se soit battu les armes à la main, à moins qu'on me contredise, hein. Mais il me semble, bon, évidemment, plein de poètes ont défendu, comme ils disent, l'honneur des poètes, mais les armes à la main, à part ces deux-là, je n'en connais pas beaucoup, quoi. Malraux, oui, est-ce,
on peut le
oui,
citer,
on peut le citer. Oui, mais comme est-ce un poète, bon, voilà, c'était, c'est une grande plume,
dire.
Voilà, oui, on peut dire, effectivement. Donc Dante va après la guerre essayer de vivre, de vivoter un petit peu, hein, avec des comme il peut, et il veut faire du journalisme. Enfin, c'est la chose pour laquelle probablement il se sent le plus capable, hein. Mais il a fait le serment sur la tombe de son père de raconter l'histoire de son père. Ça, c'est très important. Il s'est dit, il faut qu'à un moment, je n'ai pas seulement cette plume mercenaire, mais que je puisse témoigner de cette histoire incroyable, cette histoire de ma dynastie, un petit peu, hein, puisque c'est voilà, il a derrière lui des oncles, un grand-père extraordinaire, une grand-mère extraordinaire et des parents aussi extraordinaires qui l'ont amené sur ce chemin. Donc il va aller un petit peu partout, il va être grand reporter à Paris Match, il va faire beaucoup de voyages avec Pierre Geoffroy qui sera son allié, son double en écriture, on pourrait dire, hein, une écriture journalistique. Il va d'ailleurs même, je pense, là je disais que Claude Lanzmann le cite dans Le Lièvre de Patagonie, puisqu'il se retrouve à un moment tous les deux en Corée du Nord. Et donc Gatti traverse le monde dans des endroits très périlleux, hein. Il est le premier journaliste européen occidental à être reçu en Chine, et reçu par Mao Tse-Tung. Il va également dans la guérilla guatémaltèque contre Arbenz, mais je crois qu'auparavant, alors je ne sais pas si c'est auparavant ou après, il a cette expérience incroyable qui va donner un livre qui s'appelle Envoyé spécial dans la cage aux fauves. Hein, puisqu'il va être dresseur, enfin il va se fasciner par un dresseur de fauves, puis il va être soigneur d'une de ses panthères, quoi. Et il, pendant un an, il va travailler auprès de cet homme, quoi. Il va apprendre d'abord à malaxer la viande pour mettre la panthère en confiance, pour qu'elle associe son odeur à celle de quelque chose de gratifiant qui est la viande qu'elle mange. Enfin bref, et il finira d'ailleurs par mettre sa tête dans la gueule de la panthère, quoi. C'est un numéro de cirque répertorié, quoi. Dont il dit d'ailleurs que le pire, c'était pas la peur des canines de la panthère, mais l'odeur épouvantable de son haleine de carnassier, voilà. Et grâce à ce livre, d'ailleurs, il va obtenir, je crois, le prix Albert Londres, hein, qui est une grande distinction de grand reporter, voilà. Donc, pour aller vite, c'est le début de ce journalisme, hein, et il y a quand même toujours très présent l'histoire du camp. Gatti dira souvent « on ne sort jamais du camp ». Et il va parler de ses anciens compagnons.
L'adieu à Nicole Gompers. Le mot doit conduire à la libération de l'étincelle qui est en chacun, jusqu'à l'embrasement de l'être, et par multiplication de celui-ci, à l'univers. Aucun élitisme pour autant. L'univers est la structure de notre être. Il en est aussi moralité et spectacle en même temps. L'adieu de Nicole Gompers au quai de la gare, nous le reconstituons ainsi dans notre didascalie. Les quais de gare répondront aux quais de gare, notre voyage durant. Nous n'arriverons pas, nous continuerons notre voyage même lorsque les quais de gare auront disparu. Les Sonderkommando, qui, par ironie concentrationnaire, devenaient soit commando du ciel, soit groupe de l'ascension, et qui l'ont transporté de la chambre à gaz au four crématoire, ont dit « Ces 15 ans s'étaient transformés en sourires lumineux sur toute l'étendue du corps qui allait disparaître. » Malgré celui qui vaticinait son combat, Mein Kampf, en morts industrielles, les animaux de Ninive, l'ange de la forêt et les îles Mergui l'attendaient. Ceux pour qui la fumée a transformé le ciel d'Auschwitz en mémoire se souviennent. Cheveux blonds, yeux bleus comme la fille du Baal Shem Tov. Elle est devenue feu d'un seul coup. nous chercherons, à travers le temps et l'espace du spectacle, à la dire et à nous dire en même temps et espace que nous la disons. Quelle que soit la forêt où nous sommes partis à ta recherche, quel que soit le sentier où tu pousses, fleurs, quelles que soient les branches d'arbres sur lesquelles tu chantes, oiseaux, quel que soit le bourgeon dans lequel tu souris, sève, quelles que soient les herbes avec lesquelles tu te multiplies, quatre saisons, quelle que soit la nuit dont tu deviens l'alphabet et son mystère, une étoile porte ton nom, Nicole. Te voilà cantique des cantiques, où le regard bleu de tes yeux est le regard de la création sur nous.
Quatre fois cent enfants, dont il ne restait que les yeux d'insectes fouillant les ordures. Quatre fois cent enfants. Janusz Korczak les avait recueillis, mutin d'un avril englouti sous les décombres. Il vivait avec eux, avec leur honte, leur angoisse, leur poux, leur crasse et leur faim. Il inventait pour eux des contes. Oh, ces regards d'enfants pourchassés, fleurs et regrets ne sont que complicité révolue. Il racontait des contes à ces visages jaunes et bleus, comme dans un vieux livre d'images, à ces petites têtes de chiens qui tanguaient dans les rues d'outre-misère. Il les appelait « mes petits vieillards morbides ». L'âge moyen était 5 ans. Cargaison sanglante, combien elles deviennent légères. En été, la famine luisait sur le pas des portes. On vint chercher les enfants, Korczak fit non de la tête. On lui remit un certificat garantissant sauve la vie, Korczak fit non de la tête. Il se plaça devant le cortège, à travers les rues suffocantes où pesait la mort. Un enfant le tenait par le pan de sa veste, tandis qu'il portait les deux plus petits dans ses bras. Il monta avec eux dans les wagons. Qui retrouvera les contes que Korczak a racontés au cours de ce dernier voyage?
Les personnages de théâtre meurent dans la rue. celui qui se bat en permanence sur la frontière de quelque chose d'important, mais qui ne sait jamais où il se trouve. Celui qui, empêtré dans les gestions du symbolisme, a planté la herse et la charrue imaginaire dans les stations de Huban pour défier, réinventer la ville. Celui qui a bu de l'alcool d'œuf de serpent à Pékin avec le ministre des étrangers et qui s'est cru chinois pendant des années, il le croit encore sous forme de verset du Tao dans l'un des tiroirs de sa table de travail. Celui qui, le même jour, devant le même mur d'une prison du Guatemala, vit trois Christs. Peut-être y en avait-il un de faux, fusillé par les hommes de l'United Fruit Company, et qui, depuis, se cherche une croix sans jamais la trouver. D'où ces explications sans fin, un Christ sans croix, c'est pas vivable. Celui des rendez-vous clandestins avec les paraboles bouddhistes et qui croit lire le monde dans la tête décapitée du chat du Mont Nanchuan. Celui qui cherchait à travers les dispersions des peuples la petite fille d'un cosaque ukrainien, laquelle s'était enfuie dans les monts libertaires avec un cinéaste à tête de cheval. Celui qui, dans une cafétéria de la Havane, avait assisté à la révolte de Dieu le Père. Non, je ne veux plus être Dieu! Mais qui, depuis, n'avait pas réussi à prendre sa place. Celui qui se cassait tous les matins une brique de verre sur la tête en rêvant d'être sanglier. Sans attribut, sans sujet, et cependant vers transitif. Celui du tocsin pour les guerres éternelles et le cri de l'esprit humilié, piétiné dans les galaxies. Celui qui pendant 30 ans avait essayé de marcher sur les eaux d'un port des Alpes maritimes et se retrouva patineur sur la Baltique. La ville d'Arenshop assista à l'événement. Celui qui tressait à chaque petite fille de Berlin une couronne de rails et de lumière, de chemin de fer pour qu'elle puisse épouser l'orage. Le comptable des matchs de boxe du samedi, des extraits de matchs de football à la télévision et des positions de fœtus dans les piscines olympiques. Le gros en gueule, en ventre, en cul, en couille, en nez. Ce sont les gros qui font l'histoire de l'histoire, chaque fois enfermés dans le langage des idéologies et s'y débattant comme un rat, gros, pris au piège. Celui qui n'est jamais là où il se trouve, personne ne le sait. Il est peut-être mort quelque part, mais tous l'ignorent.
Voilà, on l'aura deviné, Armand Gatti n'est pas un gros. C'est un homme de flamme. C'est un homme toujours droit. On l'honore aujourd'hui parce qu'il vient à Montpellier présenter une rétrospective de ses films. Et c'est dès demain. Demain, il sera donc à 17h à l'Hôtel de Ville à Montpellier pour une lecture de la première lettre. La première lettre, c'est un texte d'une sorte de poème scénario, un opéra scénario qui s'adresse au jeune résistant Roger Rouxel. Roger Rouxel qui était le seul français d'ailleurs du groupe Manouchian. Il se distinguait dans ce groupe par le fait qu'il était à la fois il était français, il n'était pas clandestin puisqu'il est resté jusqu'au jour de son arrestation à son travail. Il était tourneur, je crois, chez Texier Dufort, une petite usine à Vitry, et il était aussi catholique, alors que tous les autres étaient des anarchistes déclarés, et pourtant il était à leur côté, quoi. Il représentait là, on pourrait dire, ce que la jeunesse française dans ce cas-là de moins égoïste et de plus ouvert, puisqu'elle avait rejoint ces gens qui étaient montrés au doigt sur les murs, hein, comme dit la chanson de l'affiche rouge. Voilà. Et Rouxel, pourquoi la première lettre? Parce que Rouxel a écrit sa première lettre d'amour la veille de son exécution, quoi. Donc sa dernière lettre de vivant a été sa première lettre d'amour à sa voisine à qui il a osé déclarer son amour. Voilà. C'était un jeune de 19 ans. Donc j'ai dit, Gatti sera demain à Montpellier. Ne ratez pas l'occasion. Hein. Cet homme extraordinaire, quoi, qui à 85 ans, vous l'avez entendu, continue à proférer ses textes avec la même énergie. Hein. Il y a ici autour de nous, je veux le dire aussi, trois invités, hein, qui sont des gens de... Il y a Idir Tigillet, il y a Fred Éric Darcy et il y a Mathieu Aubert, hein, en dehors d'Yves Flanck qui est là d'habitude et de Claude qui est là bien souvent, et qui eux vont monter ici à Montpellier un spectacle, enfin conduisent une opération autour de textes d'Armand Gatti, voilà, et qui nous ont fait le plaisir de venir parmi nous. Voilà, on va maintenant se quitter en musique. N'oublions pas que la BIP est toujours à votre disposition sur vos lieux de travail, vos lieux de paresse, vos lieux de loisirs, pour venir dire par surprise et partout les textes des poètes. Donc on se retrouve, le nouvel horaire, c'est donc bien le mardi 1 et le mardi 3 de chaque mois, de 20h à 21h, et ne vous laissez pas troubler par notre indicatif qui n'est pas encore changé. Hadouk Trio, au revoir, à la prochaine.